Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
L'actualité vient d'évoquer des signes de contradiction. Les citoyens ont pu lire ou entendre devant les monuments aux morts la lettre de la ministre des Armées écrite pour la célébration officielle du 11 novembre. Madame Vautrin cite la philosophe Simone Veil. Alors attention, beaucoup auront sans doute cru qu'il s'agissait de Simone Veil, l'ancien ministre qui s'écrit Veil avec un V. Non, la ministre parlait de Simone Veil avec un W. Une philosophe très appréciée des intellectuels, née en 1909 et morte en 1943. Simone Veil a vécu et a décrit la contradiction entre son idéal anarchiste et son application humainement désastreuse dans la guerre d'Espagne où elle s'était engagée dans les rangs anarchistes. Ça, c'est l'exemple à gauche. À droite, je parlerai d'un certain catholicisme américain dit intégraliste, pas intégriste, intégraliste, très mobilisateur des jeunes et qui, dans son application trumpiste, manque cruellement de charité chrétienne. Voilà la contradiction à nouveau entre l'idéal et sa réalisation. Ça me fait penser au célèbre duo de la Révolution française que sont Rousseau, le philosophe idéaliste, et son disciple en action, Robespierre. Volonté idéaliste d'apaisement, Jean-Jacques Rousseau. Réalité de la grande terreur, Maximilien Robespierre. Cette contradiction entre l'idéal et ses applications se retrouve dans l'œuvre et la vie de Simone Veil. Agrégée de philosophie et normalienne, bref, le top du top, Simone Veil sera très remarquée durant sa courte vie, 34 ans, d'abord par ses écrits. Albert Camus, qui ne l'a jamais rencontré, mais qui l'a lu, dit « Simone Veil est le seul grand esprit de notre temps ». Albert Camus, athée, dit ça de Simone Veil, chrétienne. Simone Veil se convertit au christianisme et elle est aussi de sensibilité anarchiste, très à gauche. Ainsi, coup de théâtre inattendu, elle abandonne son poste de professeur pour se faire embaucher comme ouvrière dans une usine métallurgique Alstom, où elle entend communier avec le prolétariat et vivre avec le salaire prolétarien. Mais cet engagement ne lui suffit pas. Elle s'enrôle ensuite dans les troupes anarchistes de la guerre d'Espagne. Elle s'aperçoit vite du décalage entre son idéal de liberté et d'humanisme pacifiste anarchiste et la mentalité guerrière, haineuse, voire peut-être cruelle, de ses camarades. Elle reste anarchiste, mais quitte l'Espagne assez déçue. Pourquoi cette déception ? L'analyse théorique d'un idéal implique, pour la comprendre, de l'isoler, de ne pas la mélanger avec d'autres problématiques. Ainsi, en sciences physiques, expérimenter la loi de la chute des corps exige d'isoler ce phénomène pour éviter toute perturbation, par exemple celle de la résistance de l'air. Eh bien, il en est de même pour la philosophie politique. L'anarchisme de Simone Weil s'énonce clairement dans un discours cohérent et pacifiste qui ne tient compte que de paramètres prévisibles. Le passage à l'acte est bien différent. Le militant est confronté à des dizaines de problématiques très distinctes de la seule problématique anarchiste théorique. Oui, ça va être la guerre. La volonté de vaincre et de sauver sa vie si possible implique des qualités guerrières différentes d'un certain anarchisme pacifiste théorique. Il va même falloir accepter qu'il y ait des chefs, et ça c'est dur pour un anarchiste, et aussi que l'ennemi soit déshumanisé pour avoir envie de le tuer. À ce stade, la charité chrétienne et l'humanisme pacifiste ne sont pas au rendez-vous. D'un côté, l'unité, identité et cohérence de l'idéal théorique, de l'autre, l'altérité et la multiplicité d'un contexte hétéroclite. D'autant plus que l'usage de la force appelle l'usage toujours plus violent de la force, l'hubris, la démesure. À l'autre bout de l'échiquier politique, le catholicisme américain du vice-président Vance, qui se déclare à droite, se heurte à la même contradiction que Simone Weil, identifiée chrétienne de gauche. Vance et ses partisans catholiques américains construisent ce qu'on appelle l'intégralisme. De quoi s'agit-il ? Des chrétiens américains regrettent le Concile Vatican II qui a voulu ouvrir l'Église au monde. Résultat, selon eux, une accélération de la sécularisation, c'est-à-dire de l'abandon de la foi, pour n'en conserver que quelques valeurs devenues profanes. L'identité chrétienne se serait brouillée au profit d'un humanisme social, peut-être sociétal aussi, dans lequel le catholicisme se dissout, en abandonnant peu à peu la spiritualité de ses traditions et ses convictions sur la théorie des genres, par exemple. La fraternisation avec l'islam, même pacifique, peut paraître pour ces chrétiens-là une capitulation de la vérité évangélique universelle. D'où la volonté de recréer un État et une société véritablement chrétienne et officiellement chrétienne. Vérité évangélique universelle qu'il s'agit d'établir sur un piédestal. Je ne partage pas cet avis, mais il ne manque pas en 2025 de possibilités de persuasion. De nouveau, c'est l'application de cet intégralisme qui fait surtout problème. Le retour à un catholicisme puissant et sans complexe se heurte à des obstacles. Même badigeonné de ferveur religieuse, la volonté de puissance et le culte de la force vont dégénérer. Pour contrer les migrations, par exemple, on entend un slogan tel que « déportation massive, vite », accompagné de vantardises de violence contre les migrants. Où sont passées les valeurs chrétiennes ? Thank you. Léon XIV, moins tranchant que François, comprend la nécessité de réguler les flux migratoires. Mais il distingue régulation migratoire justifiée et transgression de la dignité humaine injustifiée. Éric Emmanuel Schmitt, le grand écrivain catholique à succès, dit à la télévision qu'un des accomplissements de l'Évangile se situe dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, si décriée par l'intégralisme catholique américain. Et là, ne retournons-nous pas à la case départ d'une Église qui se sécularise? La contradiction est le lot de la complexité du monde et de la condition humaine, comme le dit Edgar Morin. Nos intentions personnelles, par le flux de l'histoire, changent de sens jusqu'à la contradiction. Napoléon a érigé volontairement un impérialisme despotique sur l'Europe. Or, d'une façon étonnante, il est l'acteur essentiel d'une exportation des idées de la Révolution française et plus précisément de la démocratisation du continent en imposant le code civil et le code pénal qui portent son nom. Ruse de l'histoire, selon la formule du philosophe Hegel. Contradiction entre le projet et son accomplissement. N'oublions pas que le Christ est qualifié dès sa prime enfance de signe de contradiction. Es semeion antilegomenon, en grec. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 34. Plus tard, le Christ dira « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais le glaive. » Évangile de Matthieu, chapitre 10, l'ensemble, c'est quel. Et aussi, dans un autre évangile, « Je suis venu apporter le feu sur la terre. » Et là, c'est l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 49 et suivant. La contradiction est paradoxale, car tout l'évangile parle de paix et d'amour. Pourtant ici, la contradiction n'est pas entre un idéal et son application, non. Non, Jésus assume d'emblée la contradiction. Le but du christianisme est bien la paix. Oui, mais la paix par le sang de la croix. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 20. Pour gagner un monde de paix, l'amour est un combat. L'amour est un combat dans lequel le Christ et les chrétiens se donnent au risque de souffrir et de mourir. Ce don de soi, ce renoncement à soi, n'est pas une parenthèse provisoire pour arriver au bonheur de la paix. Ce don de soi, ce renoncement, sont en eux-mêmes une joie tragique, mais profond bonheur d'aimer. Bref, seul le Christ assume la contradiction apparente entre le but d'un projet et son application pour y parvenir, cheminement christique, déjà en lui-même le but, c'est-à-dire l'amour.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.